Radio Okapi.
Confirmation de l'épidémie à virus Ebola dans les zones de santé de Mungwalu, Rampara et Bunia en Ituri. C'est la 17e épidémie dans le pays. Dans ce journal, les mesures annoncées par le gouvernement, nous serons à Mungwalu, cité minière considérée comme épicentre de la maladie où la sensibilisation aux mesures barrières se met en place. Nous vous dirons aussi comment se passe la prise en charge des cas suspects dans certaines structures sanitaires de Bunia et de Mungwalu. Fin hier à Mbushima et de la mission du groupe de coordination des partenaires de la RDC, cette plateforme qui regroupe bailleurs de fonds et agences du système des Nations Unies a évalué plusieurs projets dans les secteurs de l'eau et de l'énergie. Crise institutionnelle au Maniema, les femmes réunies au sein de la coalition des femmes du Maniema adressent une lettre ouverte au vice-premier ministre de l'Intérieur pour le rétablissement de la paix institutionnelle et la cohésion sociale dans la province. Pour en parler, nous recevons Zahira Swami, point focal de la synergie paix et sécurité au Maniema. Madame, Monsieur, bonjour. Vous le savez, le gouvernement a officiellement déclaré hier vendredi la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola dans les zones de santé de Rwampara, Mungwalu et Bunia dans la province de l'Ituri. Le ministre de la Santé précise que les analyses de l'INRB, Institut National de Recherche Biomédicale, ont confirmé 8 cas positifs sur 13 échantillons prélevés. Autre précision, il s'agit de la souche Bundi Bugyo. À ce jour, 246 cas suspects, 80 décès ont été notifiés, dont 4 testés positifs. Ces informations de Suzanne Zobotra sont rendues par Jean Gandou.
Dans un communiqué officiel, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures urgentes, notamment l'activation du Centre des opérations d'urgence de santé publique, le renforcement de la surveillance épidémiologique, la prise en charge gratuite et l'isolement strict des cas suspects ou confirmés, également le déploiement des équipes d'intervention rapide et des médicaments essentiels et l'intensification de la communication sur les risques et engagements communautaires. Le ministre appelle la population à rester vigilante, à signaler tout cas suspect et à éviter des contacts physiques avec les malades ou les personnes décédées. Un numéro vert, le 151, est disponible pour toute information utile. Ensemble, par la vigilance, la collaboration et la solidarité, nous vaincrons encore une fois cette épidémie, a déclaré le ministre.
Et au lendemain de la déclaration officielle lors de cette 17e épidémie d'Ebola, en Ituri, les mesures barrières commencent progressivement à se mettre en place à Mungwalu, cité minière située environ 85 km de Bunia et considérée comme l'épicentre de l'épidémie. Des équipes sanitaires parcourent les quartiers pour sensibiliser la population au respect des mesures d'hygiène. C'est pour limiter la propagation de la maladie, mais dans les rues, peu d'habitants appliquent réellement ces recommandations. Nous faisons le point avec Jean-Claude Lokidile.
Ce matin encore, le centre commercial de Mungwalu s'est réveillé dans une ambiance presque habituelle. Les marchés restent fréquentés, les boutiques ouvertes, les motos assurent le transport et les enfants continuent à se rendre à l'école, selon plusieurs habitants contactés sur place. Pourtant, derrière cette apparente normalité, l'inquiétude grandit depuis la déclaration officielle ce vendredi 15 mai par le gouvernement de l'épidémie en province, avec déjà plus de 80 décès enregistrés. Toutefois, dans certaines rues, quelques habitants commencent à porter des cache-nez, signe d'une prise de conscience progressive de la gravité de la situation. Gloire Mumbessa, habitant de Mungwalu, témoigne.
On a vu dans les rues différentes personnes en cache-nez. C'est comme si la population savait déjà que vu les décès en cascade dans la zone, il y aurait peut-être une épidémie. La population jusque-là n'a pas encore compris qu'est-ce qu'il faut faire exactement.
Pendant ce temps, les équipes sanitaires multiplient des campagnes de sensibilisation dans les quartiers. Elles rappellent notamment l'importance du port de masque, du lavage régulier des mains, de l'évitement des attroupements ainsi que des enterrements sécurisés. Selon le bourgmestre de Mungwalu, deux nouvelles personnes, dont une femme transférés à l'hôpital, sont décédés durant la nuit dernière. Par contre, d'autres sources médicales évoquent au moins 4 décès supplémentaires. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Et sur place en Ituri, plusieurs cas suspects de la maladie à virus Ebola sont actuellement pris en charge dans différentes structures sanitaires de Bounia et de Mungwalu. Les équipes médicales et les partenaires de santé se mobilisent pour identifier les personnes contacts afin de limiter la propagation de cette épidémie. Toutefois, certaines sources médicales déplorent le manque de moyens financiers et d'équipements nécessaires pour assurer une riposte efficace. Le point avec Isaac Raymond.
À l'hôpital général des références de Bounia, 6 cas suspects d'Ebola sont actuellement placés sous surveillance médicale. Les patients sont isolés dans une unité spéciale afin d'éviter tout contact avec les autres malades. À l'hôpital de Rwampara, à une dizaine de kilomètres de Bounia, un autre cas suspect est également pris en charge. Avant-hier, un patient présentant des symptômes de fièvre et de vomissements a été signalé à la clinique Babenda avant d'être transféré à l'hôpital général des références de Bounia. Des cas suspects sont aussi signalés à l'hôpital général de Mungwalu, situé à environ 85 km au nord de Bounia, une zone considérée comme l'un des épicentres de cette épidémie. Par ailleurs, certaines personnes contacts commencent déjà à être référées dans les structures sanitaires pour des examens médicaux. Mais selon plusieurs sources médicales, le principal défi reste l'identification de toutes les personnes contacts encore dissimulées dans la communauté. Les mêmes sources évoquent également le manque de moyens financiers et d'équipements adaptés pour assurer une prise en charge efficace des malades. À l'hôpital général de Bounia, par exemple, seules 6 places sont actuellement disponibles pour l'isolement des patients. Pendant ce temps, les autorités sanitaires de Bounia et de Mungwalu multiplient les réunions avec les partenaires de santé afin de renforcer la lutte contre cette maladie. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Une délégation du groupe de coordination des partenaires de la RDC a clôturé hier vendredi à Mbushima et sa mission de travail par un point de presse. Cette plateforme qui regroupe bailleurs de fonds et agences du système des Nations Unies a évalué plusieurs projets dans les secteurs de l'eau et de l'énergie autour du thème du renouveau de la ville. L'objectif est de renforcer l'accès à l'eau potable et assurer une énergie durable. Explication avec Estanda Lafina.
Durant leur séjour, les membres de la délégation ont visité les installations de la régie des eaux, les associations des usagers des réseaux d'eau potable ainsi que les infrastructures de la régie provinciale du service public de l'eau du Kasaï oriental. À l'issue de ces visites, Marcel Banza, représentant du coordonnateur résident du système des Nations Unies, a dressé un premier bilan.
Les infrastructures que nous avons visitées rappellent que l'accès à l'eau potable n'est pas seulement un service technique, mais un droit fondamental au cœur de la santé publique, de la dignité humaine et du développement socio-économique.
Pour sa part, Astrid Meyer, chef de la coopération à l'ambassade d'Allemagne et coprésidente du GCP, est revenue sur les réalisations enregistrées ces dernières années dans la province.
Plus de 2,8 millions de personnes ont obtenu un meilleur accès à l'eau potable grâce à la construction de plus de 1200 points d'eau publique et à plus de 2100 nouveaux branchements domestiques. 270 bornes fontaines, 1700 branchements privés ont été installés.
L'Allemagne, à travers la GIZ et la Banque de développement KfW, demeure l'un des principaux partenaires de la RDC dans le secteur de l'eau. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Identifier les avancées réalisées, les défis à surmonter et les réformes importantes pour l'expansion du secteur du commerce extérieur et l'amélioration des politiques économiques connexes en RDC, c'est l'objectif des consultations sur le troisième examen de la politique commerciale de la RDC. C'est avec l'accompagnement du secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Ces travaux techniques de 5 jours se sont clôturés hier vendredi à Kinshasa. Ils ont réuni des experts délégués par les secteurs publics et privés, mais aussi par la société civile et le monde universitaire. D'autres étaient avec Ella Chimbalo.
Selon les experts, cette troisième revue va jouer un rôle majeur dans la consolidation de la transparence dans la politique commerciale de la RDC. Celle-ci constitue une vitrine pour les pays à travers le monde, a expliqué Gilles Mulumbo, expert en chef en matière du commerce international au ministère du Commerce extérieur.
La prochaine étape, c'est la plus importante, c'est l'examen proprement dit de cette troisième revue. En effet, le gouvernement congolais va présenter un rapport pays à l'OMC et de ce rapport pays, tous les autres membres de l'OMC vont poser des questions pour avoir une idée précise de ce que nous sommes sur le plan de la promotion et de la régulation de nos échanges commerciaux.
Pour sa part, Michael Colli, analyste des politiques commerciales à l'OMC, affirme que ces travaux ont permis de renforcer les dialogues entre les parties prenantes dans la présentation de l'image réelle de la RDC en matière du commerce.
Nous retournons du coup à Genève avec beaucoup de satisfaction, avec tous les outils qu'il faut pour finaliser notre rapport.
Le rapport sera finalisé et distribué à tous les membres de l'OMC. Et ce rapport va servir de base aux discussions qui auront lieu à Genève les 28 et 30 octobre 2026.
Ces consultations ont été clôturées par le secrétaire général au commerce extérieur, Eugène Mangamanga, au nom du ministre du commerce extérieur, Julien Paluku-Kanongia.
À Matadi, dans la province du Congo central, de nombreux jeunes en quête d'emploi ont eu l'opportunité de se familiariser avec les métiers de l'hôtellerie. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un forum de l'emploi organisé par une structure regroupant des professionnels du secteur hôtelier. Le but de cette rencontre est de permettre aux participants de bénéficier de l'expertise de ces professionnels, cela afin de mieux se préparer aux nombreuses opportunités qu'offre le domaine de l'hôtellerie ainsi que ses secteurs connexes dans la province du Congo central. Élise Kavira.
Des jeunes aux profils variés ont répondu à l'appel avec l'espoir de décrocher enfin une opportunité d'emploi. Parmi eux, Ruth Baquet, médecin dentiste de formation. Depuis 3 ans, elle effectue un stage dans une clinique de la place. Face aux difficultés à trouver un emploi stable, elle se dit aujourd'hui prête, si nécessaire, à envisager une reconversion professionnelle.
C'est vrai que je suis médecin dentiste, mais je n'arrive pas à trouver d'emploi dans mon domaine de formation. Si, à travers une autre formation pratique, je peux avoir un autre travail dans un autre domaine, je peux le faire.
Ruth est loin d'être un cas isolé. Plusieurs jeunes présents à ce forum confient être parfois contraints d'abandonner leur domaine de formation pour saisir la première opportunité professionnelle qui s'offre à eux. Un état d'esprit encouragé par les organisateurs de la rencontre. L'un d'eux, Wani Narugeta, souligne qu'au-delà des diplômes, les jeunes doivent surtout miser sur l'expérience pratique pour mieux s'insérer sur le marché de l'emploi.
Ce que nous visons, c'est avoir une sorte de partenariat avec des entreprises locales de façon à renforcer l'employabilité des jeunes. Sachez que les entreprises veulent engager, mais ne veulent pas engager quelqu'un qui pourrait leur coûter cher plus tard.
Selon les organisateurs, ces programmes de formation et d'orientation professionnelle devraient prochainement être étendus à plusieurs autres zones du Congo central. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Parlons à présent de cette série de conflits. D'abord au Kasaï central, la lutte pour le contrôle d'un gisement d'or à Kalinga-Amani, situé dans le secteur de Bashimai, territoire de Luisa, fait plusieurs victimes. Ce conflit oppose des exploitants miniers locaux et d'autres venus notamment de la province voisine du Lualaba. Face à ces violences qui ont déjà causé la mort de 3 personnes et fait 10 de blessés, le chef du secteur appelle au calme. Il plaide également pour une concertation entre les autorités de ces 2 provinces afin de trouver des solutions durables pour mettre fin à ces affrontements devenus récurrents. Le point avec André Katende Ngalamulume.
La tension autour du site aurifère de Kalinga-Amani dure depuis près de 6 mois. Mais c'est au mois de mars dernier que la situation s'est véritablement détériorée avec des affrontements entre créseurs artisanaux. Selon Laurent Tomba, chef du secteur de Bushimai, les exploitants venus des 2 provinces travaillent sur ces mêmes gisements. Cependant, en début de semaine, des affrontements nocturnes ont éclaté entre les 2 camps. Bilan, 3 créseurs originaires du Kasaï central ont perdu la vie et 10 d'autres ont été blessés dans les 2 camps. Le chef du secteur appelle à l'implication des autorités des 2 provinces pour restaurer le calme et favoriser une cohabitation pacifique.
Il y a eu des bagarres et il y a eu même des pertes en vies humaines. Nous demandons à nos autorités des 2 provinces de s'impliquer pour retrouver cette paix perdue parce que nous sommes un seul peuple et puis nous sommes des voisins appelés à vivre ensemble et en paix. L'or ne peut pas nous séparer.
Pour l'instant, la tension reste vive. Les activités minières sont paralysées en attendant une intervention des autorités de 2 provinces en vue d'un retour rapide à la paix. Kananga, André Katende Ngalamulume, Radio Okapi.
Et dans la province de Lomami, de violents affrontements ont opposé hier vendredi des habitants des villages de Benamukenzi et de Benamatamba dans les territoires de Ngandajika. Le bilan provisoire fait état de 5 morts selon des sources locales, 10 blessés et de plusieurs maisons incendiées. À l'origine de ces troubles, la découverte ici aussi d'un gisement minier, mais la nature exacte du minerai en question n'est pas encore connue. Explication Esther Dalafina.
D'après l'administrateur de territoire, tout est parti de l'arrivée d'un individu venu prospecter dans la région. Sa découverte d'un gisement a déclenché une dispute autour des limites des terres opposant les 2 communautés voisines. Si des sources concordantes évoquent 5 décès, l'autorité territoriale parle pour sa part d'un mort.
Tous s'accordent cependant sur les nombres élevés des blessés graves et les dégâts matériels importants, notamment plusieurs habitations réduites en cendres. Face à l'escalade de violence, un dispositif sécuritaire a été déployé sur place afin de restaurer le calme et prévenir de nouvelles tensions. Les autorités locales appellent à la retenue et à la médiation pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la situation reste tendue ce samedi dans plusieurs villages situés à cheval entre les territoires de Walikale et de Masisi, en cause des affrontements survenus hier vendredi entre les rebelles de la FCM-23 et les combattants Wazalendo. Cela s'est passé dans la localité de Burubi, près de Kachébéré. C'est dans le groupement Louberike, territoire de Walikale. Le bilan de ces affrontements n'est pas encore connu. Toutefois, la zone est désormais vidée de ses habitants malgré le canot précaire observé aujourd'hui. Des détails avec Bernard Denyangui.
Selon plusieurs sources locales, les combattants Wazalendo qui tentaient de reprendre le contrôle de la zone ont lancé tôt vendredi matin une attaque contre les positions de l'AFC-123 sur le mont Mwanga dans la localité de Burubi, non loin de Kachébéré. Ces affrontements se sont déroulés à la limite avec la localité de Luibo dans le territoire voisin de Masisi. Jusqu'à tard dans la soirée, les détonations d'armes lourdes et légères étaient encore entendues dans la zone, plongeant la population de Kachébéré et ses environs dans une psychose, rapportent des sources coutumières de la société civile locale. D'après ces sources, les activités socio-économiques ainsi que le trafic sur l'axe Kachébéré-Mungazi restent paralysés jusqu'à ce samedi. La zone demeure également désertée par ses habitants qui ont fui vers des villages jugés plus sûrs, redoutant une détérioration de la situation sécuritaire. Une situation d'autant plus préoccupante alors que cette zone était depuis quelques mois relativement stable et constituait un important centre d'activités agro-pastorales.
Actualité internationale.
Le gouvernement ghanéen a officialisé hier vendredi la conclusion du programme de facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international, ce qui confirme la sortie du pays de l'appui financier d'urgence. Cette annonce intervient dans la continuité du processus de transition engagé depuis décembre 2025 par le président John Dramani, après un redressement des principaux indicateurs économiques. Le gouvernement du Ghana a annoncé donc hier vendredi la conclusion réussie de son programme de facilité élargie de crédit, marquant une étape décisive dans le processus de stabilisation et de relance économique du pays.
L'invité.
Crise institutionnelle au Maniema. Les femmes réunies au sein de la coalition des femmes du Maniema adressent une lettre ouverte au vice-premier ministre de l'Intérieur pour le rétablissement de la paix institutionnelle et la cohésion sociale dans la province. Pour en parler, nous recevons Zahira Hacham, point focal de la synergie paix et sécurité au Maniema. Elle s'entretient avec Laurence Kizalunga.
Zahira Chami, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Aujourd'hui, une lettre ouverte adressée au vice-ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qui est contenu dans cette lettre?
Madame la journaliste, notre lettre ouverte, c'est un plaidoyer urgent pour une implication en faveur du rétablissement de la paix institutionnelle et cohésion sociale dans la province du Maniema. Puisque nous voyons l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, les choses ne marchent pas. Il y a tantôt, on parle des motions, il y a ceux qui refusent que le gouverneur aille se présenter. Il y a ceux qui sont pour l'interpellation. Alors, nous, en tant que maman, nous disons que pourquoi tout cela? Pourquoi toutes ces querelles-là? Nous, en tant que maman, notre souci est qu'ils s'attendent, qu'ils travaillent en franche collaboration.
Alors, qu'est-ce que vous pensez que le ministre de l'Intérieur peut faire pour résoudre cette question?
Nous pensons que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, c'est lui le chef de la sécurité. Il peut appeler ou convoquer ces deux membres qui se disputent et leur prodiguer des conseils pour qu'ils puissent cheminer ensemble et laisser tout ce qu'ils sont en train de faire.
Aujourd'hui, vous demandez l'implication du vice-ministre, ministre de l'Intérieur, pendant que lui-même avait assigné un moratoire au refusant des déstabilisations, que ce soit à l'Assemblée provinciale, tout comme au gouvernement provincial.
Oui, nous avons écrit et nous avons écouté ce moratoire. Mais ce qui nous étonne, c'est ce moratoire, on n'a pas pris en compte, puisque presque partout, on attend toujours des conflits, on attend toujours des querelles. Peut-être lui peut changer encore autre façon de faire pour que les choses aillent dans le normal.
À part cette lettre ouverte que vous adressez au vice-ministre, ministre de l'Intérieur, quel est l'autre accompagnement ou bien apport de femmes du Maniema dans la résolution de ces conflits institutionnels dans la province du Maniema?
À part le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, nous lançons aussi notre cri aux chefs religieux, aux acteurs de la société civile, aux partenaires de la consolidation de la paix pour qu'ils puissent nous venir en aide afin qu'on puisse mettre fin à ces querelles. Aussi, nous femmes, nous sommes en train de faire le dialogue entre ces deux parties qui sont en conflit.
Qu'est-ce que vous craignez dans ces disputes des politiciens aujourd'hui dans la province?
Nous, à notre tour, madame, nous craignons que tout ce qu'ils sont en train de faire, les retombées, c'est à la population. Et vous pouvez voir, madame et le journaliste, même les projets de développement qui sont financés par le gouvernement, par les partenaires financiers et qui sont en train d'être exécutés, sont restés suspens. On ne sait quoi faire. Même nous ici, madame le journaliste, nous sommes bloqués. Nous avons un projet de plaidoyer qu'on voulait aller vers les deux institutions, mais nous sommes bloqués. Qui est-ce qu'on peut aller voir au moment où ils sont encore entre des disputes? Nous voulons que ce genre de disputes puissent prendre fin et puis qu'on puisse avancer, continuer avec les actions de développement dans notre province.
Êtes-vous sûr que votre lettre, votre cri sera arrivé à qui des droits?
Exactement, madame le journaliste. En tant que maire, nous sommes convaincus que notre cri va arriver à qui des droits. Nous sommes sûrs de ça. Même comme je parle ici à la radio Okapi, je suis sûr et certain que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il est en train de m'écouter. Je lance un cri aux autorités provinciales de laisser ce qu'elles sont en train de faire, de travailler en harmonie pour bien relancer les activités dans notre province du Maniema. Le Maniema n'a pas besoin de querelles. Le Maniema a besoin de la paix. Nous voulons la paix, rien que la paix, madame les journalistes. Nous voulons la paix, madame, pour que les choses aillent normalement. Notre province est vraiment en retard par rapport à d'autres provinces. Chers politiciens, travaillez en collaboration pour le développement de notre province.
Zahira Chami, merci.
Madame les journalistes, c'est moi qui vous remercie beaucoup.
Zahira Chami, membre de la coalition des femmes du Maniema et les points focales de la synergie paix et sécurité. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Jean Gandou. Babel Pongo-Massimango vous l'a présenté. André Mongou s'est occupé de la technique. Merci de votre attention. Passez un excellent week-end avec Radio Okapi.